Radio Okapi. Journal présenté par Patience Ngaloula.
Au sommaire de cette édition d'information, clôture ce mercredi du mois des Ramadan par les musulmans après 30 jours de prière. À Béni, nombreux croyants partagent à cette occasion des repas entre familles musulmanes et chrétiennes pour témoigner de l'amour. Trois jeunes hommes tués par balle la nuit de mardi à mercredi par un présumé militaire au quartier Madiengo dans la ville de Goma au nord Kivu. Nos sources indiquent que ce serait le résultat d'une tracasserie qui aurait mal tourné. L'invité de ce journal est Martin Kazembe, maire de la ville de Lubumbashi. Il parle des défis auxquels est confrontée la ville, dont celui de l'insalubrité, et rassure que les efforts sont déployés pour son assainissement. Bonjour à tous. Clôture du mois de Ramadan, on en parle encore. Plusieurs familles musulmanes ont partagé leur repas avec des familles chrétiennes dans certains quartiers de la ville de Béni. C'est pour témoigner de l'amour et fraternité entre communautés malgré la différence des religions. Marc Marofimbo a visité quelques familles dans la commune de Rouenzori. Voici son reportage.
Ici, au quartier Kasabignole, sur l'avenue qui relie le centre de santé de Mabakanga au petit marché de camping, plusieurs familles musulmanes ont ouvert les portes de leur maison à leurs voisins. En ce jour de clôture du mois du Ramadan, ces familles musulmanes ont partagé des repas avec des chrétiens et d'autres personnes en signe d'amour et de fraternité. Un acte salué par Kambale Mutokambali, habitant du quartier Kasabignole.
Vous savez qu'aujourd'hui c'est le jour des Idi, c'est le jour des joies. Ces gens nous ont partagé les paix qu'ils avaient. Ils ont préparé la nourriture et partagé aux démunis pour concrétiser la charité. C'est ça l'amour du prochain.
Lors de la prière de la clôture du mois de Ramadan, le représentant régional chargé du culte de la communauté musulmane de la région de Béni a appelé les musulmans à exceller dans les actions d'amour et de paix. Béni, Marc Marofimbo, Radio Okapi.
Au nord Kivu, trois jeunes hommes ont été tués par balle la nuit de mardi à mercredi vers 23h sur l'avenue Kavumu au quartier Madiengo. C'est dans la partie nord de la ville de Goma. Selon des témoins, l'auteur du meurtre est un présumé militaire FRDC. Cécire ajoute ses sources, la conséquence d'une tracasserie qui aurait mal tourné. Le président du conseil de la jeunesse dans la commune de Goma, qui condamne ces énièmes incidents, plaide pour une justice en faveur des victimes. Claude Rougo est joint par Bernardin Nyangui.
On est totalement frustré du fait que trois de nos paisibles citoyens ont été assassinés hier dans l'avenue Kavumu. Aux environs de 20h30, un militaire criminel a fait son entrée dans un restaurant où les paisibles citoyens étaient en train de voir le match, en train de consommer. Maintenant, en voulant ravir leur téléphone de force, il y a eu résistance et le criminel militaire a commencé à tuer. D'un coup comme ça, trois de nos paisibles citoyens ont perdu la vie. Et nous, le militaire en question a été maîtrisé par ses collègues, qui soit à vue déféré devant les juridictions compétentes et jugé et condamné partant de ce crime qu'il a commis. Au-delà de ça, nous sommes en train de demander à la population de la Venika Vumu d'apaiser leurs tensions, surtout que nous sommes en train de faire face aux agresseurs. Facilement dans les violences, ils peuvent nous profiter. C'est assez, on ne sait plus comment se comporter face à de telles situations.
Rappelons que ce meurtre a été depuis la nuit de mardi jusqu'hier mercredi matin à la base des violentes manifestations populaires de la part des jeunes dans ce coin du quartier Madiengo. Restons au nord Kivu toujours pour parler de la monnaie congolaise, les francs congolais qui s'échangent à deux taux différents dans la ville de Goma. La plupart des changeurs de monnaie, communément appelés cambistes, interrogés, affirment que cette disparité des taux entre les nouveaux et les anciens billets des banques dépend du taux par lequel ils les achètent au niveau de la banque centrale. Gabriel Wamenya, reportage.
Dans la ville de Goma, les nouveaux billets de francs congolais se négocient à un taux inférieur sur le marché d'échange, soit 2600 francs congolais ou parfois 2500 francs congolais, alors que les anciens billets des banques de la même monnaie se revendent au taux normal de 2700 francs congolais. Pourquoi cette disparité du taux d'échange pour une même monnaie? Nous avons contacté le président des rassemblements des cambistes du Nord Kivu, Rakanoki, à ce sujet. Hors micro, le responsable de cette corporation a clairement dit que le problème réside au niveau de la banque centrale. Il affirme que c'est la banque centrale ici à Goma qui vend aux grossistes ces nouveaux billets de banque à un taux inférieur. Conséquence, les cambistes qui évoluent au marché noir, selon toujours ses propres termes, sont obligés de revendre ces nouveaux billets de banque pour être plus précis à un taux inférieur que les anciens billets. Toutes nos sollicitations pour avoir la réaction de la direction provinciale de la Banque centrale du Congo n'ont pas abouti.
Dans la ville de Goma encore, les projets Transforme dites avoir déjà identifié et enregistré plus de 3000 femmes entrepreneurs depuis le début de cette opération en février dernier. Les projets Transforme consistent à accompagner et à appuyer financièrement les femmes pour booster leurs activités. À Goma, il connaît un engouement de la part des entrepreneurs qui évoluent dans la transformation des biens et des services. Au bureau des Transforme au centre-ville, nous avons rencontré Sylvie Ngankoy, qui œuvre au sein de ces projets à résilience climatique. En fait, elle transforme les déchets ménagers en briquettes combustibles pour la cuisson. Elle est venue se faire enregistrer. Sylvie Ngankoy salue ces projets et estime, une fois retenue, que cela pourrait dynamiser son activité. Elle s'exprime ici au micro de Denise Loukesso.
Je suis une femme entrepreneur. Je fabrique les briquettes de charbon en base de déchets ménagers qu'on ramasse partout ici dans la ville de Goma, au marché, surtout dans le marché et dans nos ménages. On les transforme aux briquettes de charbon. Pour la cuisson, c'est vraiment très économique et ça lutte aussi contre le changement climatique. Pour protéger le parc, oui, nous sommes venus enregistrer ici chez Transforme parce que nous, à l'association, nous avons les femmes aussi qui nous encadrent. Et moi-même, je suis là, je suis venue enregistrer les femmes. Nous avons trouvé ça, c'est vraiment très important pour encourager les femmes entrepreneurs d'être autonomes. Alors vraiment, c'est quelque chose à féliciter. Nous sommes venus déposer le dossier par voie électronique, mais ils ont demandé aussi les personnes physiques. Si nous sommes sélectionnés, ça va nous aider à évoluer plus parce qu'ils ont besoin de promouvoir la femme pour que la femme puisse aller de l'avant. Et si nous sommes sélectionnés, c'est bien pour faire avancer la femme. C'est une idée géniale. Moi, je salue l'idée pour que la femme puisse être autonome. Parce que quand la femme est autonome, il y a aussi la paix, il y a le développement. L'initiative de promouvoir la femme au travers des transformes, c'est vraiment quelque chose à encourager.
Nord Kivu toujours, dans les territoires d'Ebeni, les habitants se plaignent de la hausse du prix des denrées alimentaires au marché de la commune rurale de Mangina. Principale cause de cette flambée des prix, la multiplication des attaques de rebelles de ADF qui empêchent la population d'accéder aux champs. Guylaine Kassassia pour les détails.
Un régime de bananes qui s'est vanté il y a un mois à 5 000 francs congolais se négocie actuellement entre 15 et 20 000 francs congolais sur le marché à Mangina. 10 kilos de cossettes de manioc sont vendus à 11 000 francs congolais contre 6 000 francs congolais il y a quelques semaines. La sécurité est à la base de cette situation, comme l'explique Chance Kachuva, coordonnateur du réseau local des acteurs pour la coordination des actions humanitaires et développement.
Actuellement, il n'y a pas l'accès aux champs par la population. Cette situation a poussé la population de mener une vie calamiteuse. Presque tous les denrées alimentaires, les prix ont galopé.
Une situation qui affecte la vie de la population locale, notamment les déplacés. Espérance Massika est mère de 4 enfants et vit à Mangina après avoir fui le village voisin de Mundubiena.
La vie est devenue trop dure ici à Mangina. Les prix ont galopé partout. Nous avons peur de nous rendre dans nos champs à cause de la présence de l'ennemi là-bas. Il n'y a presque rien sur les marchés. Nous manquons de quoi nourrir nos enfants. Nous allons mourir de faim.
Depuis 2 mois, les ADF ont multiplié les attaques à Mangina et ses environs. Cette zone est pourtant considérée comme grenier du territoire de Beni. Beni, Guylaine Kassassia, Radio Okapi.
Rendons-nous en province du Maniema à présent. Plus de 70 millions de francs congolais ont été volés à l'Institut supérieur des techniques médicales, ISTEM Kasongo. C'était dans la nuit d'hier mercredi. Selon les premières enquêtes menées par le service de sécurité, les animateurs de cette institution seraient les auteurs de ces vols. La même source ajoute que les présumés voleurs arrêtés seront jugés en flagrance. On écoute le colonel Madjali Wabenois, responsable de la police du territoire de Kasongo, qui suit les dossiers. Il a été joint par Florence Kizalunga.
Nous avons été informés à 3h du matin par les DG de l'ISTEM au niveau de son institution et à Yvol. Le DG lui-même a été informé cela par les trois sentinelles qui gardent les bureaux administratifs. Dans nos techniques d'enquête, on a commencé d'abord à mettre la main sur les trois sentinelles et après cela, on a eu à mettre la main sur l'administrateur du budget. En faisant des réquisitions, nous avons trouvé dans la maison de cet administrateur du budget de l'ISTEM plus de 40 millions de francs congolais et nous avons continué avec les perquisitions. On a eu à perquisitionner aussi la maison de l'académique. On a eu à trouver aussi plus de 7 millions. Alors, après les enquêtes au niveau de l'institution, on a constaté qu'il y a eu le détournement de 78 686 675 francs congolais. Avec ce montant, je sais qu'on a quand même réalisé plus de 50 millions qui sont déjà récupérés et les enquêtes continuent jusque-là. Ce n'était pas les bandits armés qui ont opéré, c'était seulement un vol qui a été planifié par les animateurs de l'ISTEM.
Au sud Kivu, la division provinciale de la santé a présidé mardi à Uvira la première réunion du conseil d'administration de la zone de santé d'Uvira pour l'année 2024. Près des 30 acteurs, parmi lesquels les représentants des partenaires locaux, nationaux et internationaux intervenant dans le domaine médical dans cette zone, la Croix-Rouge de la RDC et la mairie d'Uvira. L'objectif était d'évaluer les activités réalisées l'année dernière dans cette zone et faire des projections pour cette année en cours. Au terme de cette réunion, plusieurs décisions ont été prises concernant les difficultés présentées à la plénière. On écoute le représentant du directeur provincial de la santé dans ses assises et membre du bureau technique de la division provinciale de la santé du Sud Kivu, Dr Mundjuka Désiré, au micro des Fiston Goma.
Les problèmes qu'a connu la zone de santé tout au long de l'année 2023, la zone de santé l'a remontée dans CCA. Il y a des problèmes tels que la gestion de l'aire de santé de Kimanga. Il y a un conflit de gestion entre les militaires et les civils. La recommandation, c'est que nous, les CA, nous nous sommes joints à la décision du maire. Parce que le maire a demandé à ce que, comme il y a encore ce conflit-là, qu'on puisse séparer les militaires et les civils. On ne va pas créer une autre aire de santé, mais comme nous ne voulons pas à ce qu'il y ait mort d'homme par rapport à tout ce que nous venons de suivre, nous allons d'abord délocaliser les activités du centre de santé, toujours dans l'aire de santé. Ce n'est pas qu'on va créer une autre aire de santé. On déplace d'abord les activités en attendant pour voir comment ça va évoluer. C'est-à-dire le militaire reste avec la structure, le CQB, la communauté va se débrouiller en attendant. Il y a un autre problème qui nous a beaucoup préoccupés ici, c'est par rapport à l'aire de santé dont la structure est inondée vers les lacs là-bas. L'eau a envahi la structure. La communauté s'est organisée. Ils ont pris une maison en location. Nous avons recommandé au monsieur chef de zone d'entrer en contact avec le maire de la ville, lui exposer les problèmes pour que cette structure reste une structure de la zone de santé. On peut délocaliser cette structure et nous pouvons faire un plaidoyer pour que, si une fois il y a intérêt, qu'on puisse construire maintenant la structure là-bas.
Page culturelle dans cette session d'information. En prévision de la Journée mondiale du livre et du droit d'auteur, le 23 avril prochain, en Mbandaka, le coordinateur national de l'ONG Bayekoli Asbel a lancé mardi la construction d'une bibliothèque publique, mais aussi d'un centre de formation professionnelle moderne. L'objectif pour cet auteur de troisième cycle en sciences et techniques documentaires à l'Université de Kinshasa est de promouvoir la lecture au chef-lieu de la province de l'Équateur. À l'issue d'une caravane autorisé des sensibilisations à travers la ville, M. Tati Bikamba a expliqué sa motivation au micro de Paul Richard Malengela.
Le 23 avril de chaque mois, l'UNESCO et le monde entier célèbrent la Journée mondiale du livre et des droits d'auteur. Mais trouvant dans la ville de Mbandaka, province de l'Équateur, hier, il était question pour nous de réveiller l'attention des uns et des autres pour la promotion des sciences et techniques documentaires d'une façon générale et plus particulièrement la promotion de la lecture publique. À cette occasion, avec la bénédiction de messieurs les maires de la ville, nous avons décoré quelques grandes personnalités qui ont soutenu l'éducation dans notre ville. J'ai cité les directeurs Mokonzo, les directeurs Mpenza. Ils étaient plus de 10. À cette occasion même, nous avons profité les baptêmes du site devant abriter la bibliothèque publique Étienne Bokoba Mobonga. Nous sommes allés inaugurer un deuxième site devant abriter les centres de formation professionnelle moderne.
Avec des accords à signer entre Baye Koli et la bibliothèque urbaine de Kinshasa, avec possibilité de nous soutenir en termes des ouvrages et de l'expertise.
Actualité internationale. Le gouvernement togolais a déclaré illégales les manifestations de 3 jours prévues cette semaine pour protester contre l'arrestation des personnalités de l'opposition et la nouvelle législation supprimant les élections présidentielles, ce qui a accru les tensions dans ces pays d'Afrique de l'Ouest dirigés par la même famille depuis près de 60 ans.
L'invité.
La ville de Lubumbashi est confrontée à de nombreux défis, dont celui de l'insalubrité. Pour l'autorité urbaine, les efforts sont fournis pour l'assainissement de la ville. Pour en parler, Martin Kazembe est notre invité. Il s'entretient avec Jean Gandou.
Martin Kazembe, bonjour.
Bonjour, monsieur le journaliste.
À ces jours, quel est l'état de la ville de Lubumbashi sur le plan socio-sécuritaire et environnemental?
Hier, en plein centre-ville, les gens décriaient les immondices de gauche à droite. Mais par rapport aux initiatives qu'on a eues à prendre, parce qu'il fallait s'attaquer à la cause, au lieu de se mettre toujours à évacuer des immondices. Et la cause, c'était nos compatriotes, le marchand pirate, qui amenait des immondices à tout moment. Mais vu qu'on a pris certaines mesures, et aujourd'hui nous constatons ensemble avec vous qu'il y a quand même des avancées significatives par rapport à ça. Sur le plan social, je peux vous dire que depuis notre avènement au sein de la mairie, la ville de Lubumbashi n'est pas très secouée par rapport à cette cohabitation pacifique entre les communautés vivant dans la ville de Lubumbashi. Nous prenons toujours la paix et cette cohabitation pacifique telle que voulue par le chef de l'État, chaque communauté se sent à l'aise au sein de la ville de Lubumbashi. Sur le plan sécuritaire, il y a des efforts qui sont consentis à notre niveau et ensemble avec l'exécutif provincial et aussi également avec la population.
Ne remarquez-vous pas que les mesures prises sont venues tardivement pendant que la ville est restée longtemps dans un état de saleté criante? À un moment donné, on croirait que la ville de Lubumbashi n'était plus dirigée parce que les immondices étaient partout. Est-ce qu'il y a une raison fondamentale qui pourrait expliquer cette léthargie?
Nous étions pendant une période purement électorale. Sur le plan, bien sûr, politique et sociale et tout consort, il ne fallait pas être trop dur pendant cette période-là. Et à moins, le travail s'effectuait sur terrain, mais cette fois-ci, après les élections, parce qu'il y avait certaines sensibilités, on a eu à mettre quand même une petite dose, une façon quand même de mettre fin à tout ce qui s'est passé, à tout ce que les gens déploraient. Et voilà, aujourd'hui, quand même, les choses semblent marcher.
Monsieur le maire, la problématique de taxi-moto semble être une grosse épine sur la gorge de l'autorité urbaine que vous incarnez. Pourquoi toutes les décisions prises dans ce sens n'ont existé que le temps de leur annonce?
Monsieur le journaliste, l'État existe et nous continuons toujours à travailler. Nous sommes en train d'aller tout doucement. Aujourd'hui, on a commencé avec nos compatriotes qui font le marché pirate, qui vendent à la sauvette. Et aujourd'hui encore, nous sommes en train de travailler, c'est sur les arrêts abusifs. Pour délocaliser ces compatriotes, nous devons leur chercher des endroits là où ils peuvent commencer à garer paisiblement. Mais je vous informe qu'il y a aussi une manière de résoudre cette situation de nos motards. Parce que les motards suivent là où il y a les arrêts. Et comme nous sommes en train de travailler par rapport au projet que nous venons d'initier dernièrement, en créant d'autres arrêts, il y a d'autres espaces, vous allez voir que dans les jours à venir, nous allons aussi mettre fin par rapport à ça. Mais nous procédons toujours par la sensibilisation afin que nos compatriotes travaillent comme il se doit.
Les marchands pirates, ça paraît comme un monstre à plusieurs têtes. Vous coupez à gauche et ça renaît à droite. Comment mettre fin à cet état des choses?
Nos compatriotes doivent regagner le marché officiel.
Ça a toujours été dit de cette manière, mais ne sont jamais rentrés.
Il faut qu'il y ait une prise de conscience, d'une manière générale. Nous sommes dans un pays civilisé. Dès que nous les sensibilisons, ils doivent mettre ça en application. Il y a des marchés qui sont vides, mais les gens ne veulent pas aller exercer leurs activités là à l'intérieur de
vous. Mais vous avez un pouvoir coercitif pour les contraindre à aller, mais vous ne le faites pas, monsieur le maire.
Bien sûr, c'est ce qu'on est en train de faire. C'est pourquoi nous lançons cette opération de marché pirate zéro au centre-ville. Nous avons déjà commencé.
Dans les jours qui viennent, vous serez obligé de quitter la mairie pour d'autres fonctions. Monsieur le maire, dites-nous, dans quel état allez-vous laisser la ville de Lubumbashi?
Je laisse la latitude à la population de m'évaluer par rapport à tout ce que j'ai eu à effectuer comme travaux. Parce que nous venons de réaliser certaines choses qui n'ont jamais été faites.
Comme quoi, par exemple?
Nous construisons les murs de clôture que vous voyez là.
C'était prioritaire?
Bien sûr.
Par rapport à quel besoin?
Que nous devons travailler dans un environnement très sécurisé. Il y avait des cas d'incendie que les gens déploraient sur toute l'étendue de la ville. Et en termes d'incendie, il faut intervenir à temps. Mais aujourd'hui, sur fond propre, nous avons un camion anti-incendie. Et aujourd'hui, les cas d'incendie persistent, mais nous intervenons à temps. Nous limitons les dégâts. Tandis que par rapport à nos prédécesseurs, et ils recevaient des dons à travers nos partenaires. Mais nous venons déjà de prêcher par l'exemple.
Que diriez-vous de ceux qui pensent que la mairie est comme un tombeau blanchi? Parce que quand on passe derrière, c'est autre chose. Quand on va dans d'autres niveaux, là, ça ne reflète pas vraiment l'image que vous voulez donner à la ville.
Vous savez, les changements, ça ne peut pas se faire automatiquement. C'est quelque chose qu'on a trouvé. Nous avons fait notre part par rapport à nos moyens.
Martin Kazembe, je vous remercie.
Merci beaucoup, monsieur le journaliste.
Martin Kazembe, maire de la ville de Lubumbashi, répondait aux questions de Jean Gandou. Et c'est par ici que nous mettons un terme à cette session d'information sur Radio Kapi, supervisée et coordonnée par Alain Irung Mouchinge et Jude Bilandankoumar. Jean-Noël Mokondo, la mise en onde pour vous à la présentation. Patience Ngalula Mbombo. Madame, messieurs, merci de l'avoir suivi.